Donc on espère que toutes ces présentations vous ont plu. On remercie encore tout le monde d'avoir présenté leurs connaissances, leurs pratiques quant à tout ça. Donc maintenant, on va vous proposer un temps d'échange entre les différents intervenants qui sont là concernant un peu des questions un peu plus transversales, pluridisciplinaires, qui, pour essayer en fait de rapprocher les différentes approches. On voulait simplement, vous demander si vous aviez... peut-être, comme ça va niveau timing, on n'est pas trop mal, si vous aviez peut-être encore quelques petites questions spécifiques à poser à un ou plusieurs intervenants, n'hésitez pas à... Madame Stel qui dit « Bravo à vous pour l'organisation, jusqu'à 150 participants, quel succès !» Merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez des questions assez spécifiques, c'est le moment, parce qu'après on va peut-être donc passer sur des questions un peu plus pluridisciplinaires. Après tout, si vous avez aussi des questions transversales qui pourraient regrouper différentes thématiques, c'est peut-être aussi l'occasion de les poser. On garde un œil sur le chat de toute façon. Donc, on va essayer de tourner la caméra pour qu'on voit à peu près tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour si jamais vous vous entendez mal, parce que comme tout le monde n'est pas forcément très proche de la caméra, ça ne va pas forcément être très pratique.
Pas droit.
Donc surtout n'hésitez pas à nous dire si jamais vous entendez pas, et pour les intervenants qui sont devant nous, n'hésitez pas à parler assez fort, parce qu'on a eu des retours sur le chat comme quoi on n'entendait pas forcément quand vous étiez assez loin. Donc du coup, nous on a réfléchi de notre côté à plusieurs questions qui pourraient essayer en fait de rapprocher vos différents rôles, vos différentes pratiques, voilà. Donc après, si vous avez des suggestions, bien évidemment, des réflexions que vous voulez apporter en plus de ces questions, n'hésitez pas à diverger, j'ai envie de dire, hein, sur d'éventuels autres sujets. Donc on avait pensé à une première question. Donc en fait, à savoir, est-ce que la pratique clinique dans ce domaine, donc dans le domaine du cancer chez l'enfant, pourrait être en fait freinée par une trop grande distance avec la recherche, c'est-à-dire est-ce que les contacts entre... la recherche dans ce domaine-là et la pratique clinique sont assez faciles? Est-ce qu'il y a des possibilités de formation? Est-ce que les chercheurs, donc, notamment comme vous, M. Le Bailly, travaillent justement en collaboration avec des cliniciens? Est-ce que c'est facile justement de s'informer de l'avancée de la recherche? Et est-ce que la recherche est assez à jour sur la question pour alimenter votre pratique? Et puis peut-être au niveau des bénévoles de l'association Cadet Roussel aussi, savoir si peut-être vous aviez des formations concernant la question de la recherche, voilà, un petit peu cet aspect-là. Je ne sais pas si donc quelqu'un veut prendre la parole en premier sur ce sujet.
La recherche, en tout cas, il y en a de la recherche en sciences humaines et sociales à travers, la région, le GOS, les cancers de l'enfant. Il y a aussi les 30 centres au niveau national de cancérologie pédiatrique qui sont organisés au sein de la SFCE. Donc, il y a des travaux de groupe, de la recherche. Ça ne nous semble pas compliqué d'être en lien avec la recherche. Après, il y a quelle autre recherche vous évoquez plus précisément? Est-ce que c'est plus de la recherche clinique?
Ou alors ça peut être, je pense, tout type de recherche. Je ne sais plus qui avait pensé à cette question exactement, mais peu importe le type de recherche. C'était aussi, par exemple, au niveau peut-être la recherche sur les traitements, par rapport, justement, Madame Gigot l'abordait tout à l'heure un petit peu, les séquelles par rapport au traitement. Est-ce que donc ça s'améliore, les points peut-être positifs, les points négatifs? Est-ce que c'est facile d'avoir accès à ces différentes données ou,
Par exemple, est-ce que des avancées dans la recherche ont fait qu'au cours de votre carrière, vous avez changé votre manière de travailler, parce qu'avec ces mises à jour, on peut dire certaines choses qui paraissent pertinentes, ou qu'on a des protocoles, parce qu'il y a eu, valorisation dans tel bras et pas dans tel bras au niveau thérapeutique, mais ce serait plus les médecins qui seraient à même d'en parler que moi. Mais bien sûr, il y a eu énormément de progrès, puisqu'il y a un taux de guérison maintenant pour un certain cancer
de 80%, alors qu'avant, il y a plus de 40 ans, c'était 30% de guérison. Donc oui, la recherche a permis, en tout cas, une avancée considérable en termes de guérison, et puis aussi de prévention des séquelles par la protonthérapie, mais aussi par certaines molécules de chimiothérapie, par aussi limiter aussi la radiothérapie de maladies de
Dommage, mais on va voir en qualité de soins.
Moi, je dirais deux choses. Je dirais que la recherche, elle est d'une part aidante parce que, évidemment, ça fait avancer notre pratique parce que nous, on connaît mieux maintenant aussi, en termes de séquelles neurocognitives, on connaît mieux maintenant les séquelles, donc on sait aussi sur quoi focaliser davantage, par exemple, quand on réalise un bilan. On sait sur quoi être vraiment vigilant, par exemple, je pense au trouble de l'attention, la mémoire, etc. Par contre, le frein qui pourrait peut-être y avoir, en tout cas, les divergences qui pourraient y avoir, c'est que, et on, je le disais tout à l'heure, en clinique, on se laisse une souplesse parce qu'on est aussi dans la temporalité du patient. On peut attendre aussi l'émergence du frein, l'émergence des difficultés, on essaye vraiment d'être en adéquation avec ça. Alors qu'en recherche, on est quand même plus dans la rigidité des protocoles. C'est vrai qu'on en parlait de Mago, et on se dit, par exemple, faire des fois des premiers bilans. Avant même le traitement pour avoir une ligne de base, entre guillemets, un petit peu des compétences nouvelles, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait en premier, parce que ça ne nous semble pas être le bon moment. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, on est un peu dans une rigidité inhérente au protocole qui n'est pas notre souplesse à nous, aux cliniques qu'on aimerait avoir. Maintenant, évidemment, ça nous aide et c'est aidant et que l'un et l'autre s'enrichissent.
Du coup, entre-temps, il y a eu des questions un peu plus spécifiques qui sont arrivées sur le chat. Donc, si ça ne vous dérange pas qu'on rebatte tout dessus, ce n'est pas la meilleure organisation, mais on essaye de faire au mieux entre les questions qui arrivent et qui avaient de prévu. Donc, il y a une question qui est plus pour Madame Flambard. Est-ce que Madame Flambard peut nous parler plus amplement des mouvements psychiques qui peuvent se jouer, notamment pour les enfants?
Les mouvements psychiques au niveau de la langue du cancer et de la maladie. Enfin, c'est pas possible.
C'est pas précisé, j'imagine que de manière globale, je pense.
En fait, il y a effectivement tout le monde qui a maladie, un remaniement vraiment un total de l'enfant et de sa famille, de sa partie aussi. En tout cas, dans les conséquences, peut-être de ça, à partir du moment de l'annonce du cancer de l'enfant, l'enfant change de statut au sein de sa famille de façon extrêmement précoce, c'est-à-dire vraiment à partir du moment où on annonce le cancer de l'enfant, il n'a plus tout à fait le même statut au sein de sa famille, il n'est plus regardé par ses parents de la même façon, il n'est plus regardé par ses frères et sœurs de la même façon. La façon dont l'ensemble de la famille et de son entourage va changer de regard sur l'enfant va faire qu'il va forcément avoir plein de remaniements pour lui. Et puis au niveau des conséquences, peut-être ça c'est important parce que Solène, tu en parles, ça lie aussi beaucoup aux pratiques, c'est l'estime de soi, ce qui est vraiment le plus abîmé, il me semble, chez l'enfant, à partir du moment de l'annonce du cancer jusqu'à la traversée de la maladie, c'est vraiment l'estime de soi, c'est vraiment ce qu'on perçoit, et là de façon assez universelle chez tous les enfants, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge de l'enfant, et je trouve que c'est en ça, alors j'échange beaucoup avec Nalo par exemple. Sur ces côtés estime de soi, en tout cas, ça c'est un des remaniements peut-être les plus importants qu'on peut voir, c'est l'effondrement narcissique. Quand bien même il y a une famille bienveillante, quand bien même il y a des professionnels autour, il y a un effondrement narcissique systématique.
Merci beaucoup. On a eu une question aussi.
Pour aller dans le même sens, sur le même thème. Tout à l'heure, donc vous évoquiez des mécanismes de défense que les enfants mettent en place. J'imagine qu'évidemment, ça va dépendre aussi de l'âge de l'enfant et de la manière dont le processus, pour faire un peu le lien, la maturation cérébrale et tous les mécanismes cognitifs. Et donc là, vous évoquez, vous venez d'évoquer ce qui était globalement un peu toujours retrouvé. Mais est-ce que du coup, il y a des spécificités quand même en fonction de l'âge de l'enfant et du coup, des accompagnements un peu forcément, j'imagine, différents?
Oui, il y a forcément un
travail. Ah oui, c'est le soleil.
En fait, c'est le soleil.
Non,
je
vois.
Et je pense que.
Non, mais bonne.
Ouais, oui, il y a des mécanismes très différents et en tout cas, il y a des façons d'accueillir des mécanismes qui sont différents. Je pense en fait à quelque chose qui est la régression, qui est un des mécanismes de défense
qu'on peut percevoir assez tôt chez l'enfant, et c'est toujours tout à fait intéressant la façon dont nous, professionnels, on accueille ça. C'est-à-dire qu'on va avoir plus tendance à accepter la régression d'un enfant jeune, alors qu'on va être très inquiet et massivement inquiet sur la régression d'un adolescent, parce qu'effectivement, le mécanisme de défense de régression de l'adolescent va effectivement à l'encontre de son processus d'autonomisation. Or, il me semble que justement, le travail de clinicien au sein de ce service, c'est parfois de mettre en lumière que la régression, elle est protectrice, et qu'il y a autant de raisons d'accepter et de travailler autour de la régression d'un adolescent que d'un enfant de 6 ans. L'adolescent qui, d'un coup, se remet à son parent complètement et dans une espèce d'abandon. En tout cas, on le saisit de façon, quand il est transitoire, il y a un travail à faire autour de l'acceptation aussi de ces mécanismes de défense, et c'est notre travail sur les staffs pluridisciplinaires que de nommer ça. Après, les mécanismes de défense du côté de l'évitement, par exemple, du déni, ça fait très peur aux soignants. C'est vraiment le déni, c'est vraiment très, très peur. Là encore, j'ai l'impression qu'on ne l'accueille pas tout à fait de la même façon. Je trouve que les adolescents sont quand même très chargés de devoir absolument faire face à la maladie, tout comme un adulte, alors que, évidemment, on sait tous que ce n'est pas un enfant, enfin, c'est pas un adulte en miniature, l'adolescent, et aussi par les mécanismes cognitifs. Moi, je trouve que c'est eux qui souffrent peut-être le plus. On accepte peut-être moins que l'adolescent se défende psychiquement contre toutes les effractions. Donc, oui, il y a les mécanismes différents, enfin, je trouve qu'il y a l'évitement.
Est-ce que du coup, par rapport à ces mécanismes, vous avez des observations similaires par rapport aux parents et du temps dans des liens avec la situation de l'école? Vous parliez tout à l'heure de la colère que vous ressentez de certains parents.
Oui, en tout cas, du côté mécanismes de défense, effectivement, il y a des mécanismes de défense chez les parents aussi, au moment de l'annonce et lors de tout à fait passer de la maladie. On va retrouver à peu près les mêmes mécanismes chez l'enfant. Peut-être ce dont on parlait, la colère, ce qu'on appelle de la projection, c'est des choses qui sont effectivement très actives chez les parents et qu'on repère et qu'on accueille. Là encore, c'est tout le travail, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment la façon dont on travaille dans le service, mais c'est tout le travail en stade disciplinaire où on va pointer la projection, par exemple, on va la pointer, qui va permettre de tout à chacun en tant que type puisse accueillir ses projections sans se dire qu'on est attaqué dans notre vécu. Plus on partage, plus on va permettre de donner une projection de vie, de la projection à l'autre, et c'est fréquent aussi. C'est fréquent, et je pense qu'effectivement, dans les cafés parents, il y a aussi quelque chose qui se rejoue à ce moment-là. Il y a effectivement d'autres mécanismes qui sont très un peu plus, mais on a pas mal de parents qui sont quand même dans la rationalisation, ce qui peut aussi nous rassurer
de savoir scientifique et rechercher toutes les informations scientifiques.
Ça, c'est vraiment des mécanismes auxquels on est fréquemment confrontés. Alors, ça peut donner l'image que ce parent-là, il sait vraiment toute la maladie et vraiment, il a tout compris et il est là. Or, en fait, on se rend compte que parfois, la rationalisation, ça vient aussi masquer, défendre, en tout cas, des côtés émotionnels qui vont à tout moment reprendre leur place. Donc, voilà, on est toujours vigilant. Je crois qu'on les connaît un peu tous ces mécanismes-là, mais c'est un des défis qui est rassurant, alors que nous, on n'est pas tant rassurés.
Il y a aussi certains endroits qui fonctionnent effectivement comme des adultes. Le résultat de la prise de sang, il y a des contrôles, des tâches
plus. Il peut avoir des mécanismes de contrôle.
Oui, voilà, le contrôle est tout à fait.
Les adolescents peuvent effectivement. Ouais. Alors, on voit effectivement ça. Dans ce cas-là, on le travaille aussi comme étant quelque chose qui leur permet parfois, c'est-à-dire que parfois la seule chose qu'ils peuvent contrôler, c'est effectivement le résultat de la prise de sang. Donc, c'est vrai que parfois, c'est aussi assez évident.
Merci beaucoup pour tous ces éléments. Du coup, on a une autre question qui est... Quoi ? On a une autre question qui est aussi assez spécifique quand même, du coup, je la pose quand même. Peut-être que ça s'adresse plus à Madame Dugo ou peut-être à ceux qui travaillent au CHU, je ne sais pas, à qui je ne sais pas rien. Existe-t-il à l'heure actuelle des neurochirurgies éveillées chez l'enfant avec l'intervention d'un neuropsychologue pour la réalisation d'un test durant l'intervention? à votre connaissance, est-ce qu'il y a...
En plus, à cause des signes, donc sincèrement, là,
ça paraît difficile de mettre en place un bilan. D'accord.
Peut-être que ça a à voir avec le fait qu'on pense que le cerveau de l'enfant est plus plastique. Donc, même s'il y a d'autres zones qui sont.
Oui,
il y aura peut-être de la compensation. C'est souvent parce que le pronostic est en jeu, que de toute façon, la première, les gens ne vont pas avoir le temps de se poser la question. Ça peut être alors, c'est plus important. C'est l'enfant qui arrive, il va au bloc opératoire,
c'est ça. Et l'enfant, c'est lui qui est suivi.
Et après, il y a un temps, on va avoir un temps. En tout cas, quand c'est bien, c'est possible.
Justement, si je peux poser une question sur les séquelles, tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y avait un impact, hein, évidemment, et plutôt, c'est plutôt en termes de décalage de la trajectoire développementale, où il y a vraiment une fumée, donc l'enfant récupère ou pas, en fait,
Il y a les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les séquelles de la chirurgie, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon cas de vie en bénigne, finalement, on a aussi une séquelle au sein de l'éducation, parce qu'on a des vrais troubles de la mémoire, alors il y a aussi la fatigabilité, la lenteur, hein, des traitements qui sont vraiment des séquelles immédiates et qui perdurent vraiment dans le temps. Donc, on a ces troubles-là sur lesquels on peut avoir un impact avec une vraie récupération, en tout cas une amélioration, une compensation. Et puis, après, il y a aussi des troubles qui s'installent avec le temps. Et puis là, du coup, donc, c'est plus la trajectoire développementale qui est impactée. En fait. Donc, il y a vraiment les deux. Quoi. Je trouve un peu acquis.
Non, parce que j'imagine qu'après, sur le long terme, les enfants qui vont s'en sortir, il y a un suivi, j'imagine, psychologique, la capacité à faire face à un traumatisme dans la suite, par exemple, hein, et que ça peut aussi beaucoup dépendre de la nature des déficits cognitifs et de l'entourage. C'est des questions. Je sais pas si vous avez des informations sur. Alors, on a évoqué les récidives de cancer, mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la capacité à faire face à d'autres traumatismes dans sa vie quand on a vécu un traumatisme comme celui-ci, ou d'ailleurs pas forcément un traumatisme, face à des situations difficiles. Quand on est passé par un cheminement comme celui-là, ça fait référence à des situations traumatiques, hein, mais c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'on a des infos là-dessus, sur le suivi à long terme?
Non, moi, je n'ai pas la connaissance des textes sur lesquels on s'appuie, des articles de l'éducation spécifique. En tout cas, dans la clinique, c'est évident. Alors, peut-être que c'est encore plus vrai pour les enfants et les ados, qui ont un suivi, alors même que je n'ai pas connu chez les enfants de l'éducation. Mais par exemple, la résurgence d'images traumatiques avec des flashs, ça, c'était plus questionné, il me semble, avant. En tout cas, moi, je me questionne systématiquement, c'est-à-dire, je pense que les autres pratiques en risque traumatique, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Les flashs, les images, les reviviscences, avec un élément déclencheur, sans élément déclencheur, c'est quand même très fréquent, et ça, on entend particulièrement quand ils doivent aller dans d'autres protocoles de soins. Donc, un parcours PMA, par exemple, alors même qu'elle est passée dans l'oncologie, en tout cas, il y a quelque chose des nouvelles injections, de la monde médical qui va faire des superpositions quand même d'images et des flashs. Les cauchemars, c'est assez fréquent aussi.
C'est aussi d'armer en fonction de l'âge de l'enfant et de l'enfant, parce que nous, on a quand même des retours d'enfants qui reviennent voir dans sa vie et finalement qui n'ont pas de si mauvais souvenirs de ce qui s'est passé pendant la maladie, pendant le temps des traitements. Des fois, qui vont en moyenne de 6 mois jusqu'à 2 ans. Et ces enfants-là ne parlent pas de traumatisme, mais de bons souvenirs, en fait, qu'ils gardent. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dépendant de comment ils ont traversé la maladie.
Et de la qualité de leur âge.
Et de leur âge, c'est un mémorisme.
Ça, on connaît. Mais il y a un facteur, parce que
aussi la qualité de l'environnement aussi de jeunes et alors, il y a un niveau socio-économique des parents, on va le dire souvent, mais la qualité de l'environnement à faire face et à s'adapter au handicap que traverse l'enfant, pour que l'enfant ou pas les intègre dans quelque chose de problématique ou pas dans son parcours de vie.
La verbalisation qui en est faite, la manière dont on en parle au sein de la famille.
C'est ça.
Moi, j'en viens un petit peu en arrière par rapport à la question précédente, par rapport à la famille et comment c'est vécu. Est-ce que les parents s'interrogent comment c'est possible, pourquoi notre enfant, comment ça s'est déclaré, et qu'est-ce que vous leur demandez dans ces cas-là, par référence aux facteurs de risque de maladie et d'environnement. Est-ce qu'ils se sentent coupables, est-ce qu'ils se sentent responsables, est-ce qu'ils se sentent...
C'est la première question qu'il pose au médecin. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on est responsable de la maladie de notre enfant? C'est la première question.
Et ça, pour questionner les recommandations cliniques, on va expliquer. C'est une question qui revient de façon massive.
Et les réponses que donnent les médecins, c'est qu'il n'y a pas forcément de environnementaux comme chez l'adulte, sauf en effet pour les pesticides chez les agriculteurs. Ça questionne parce que.
Le tabagisme, c'est clair qu'il y a d'autres facteurs de risque que les pesticides qui sont clairement associés au cancer de l'enfant.
Mais dans le discours médical.
Oui, mais ce n'est pas très étonnant.
Oui, c'est
pour ça. C'est un problème de lien sur ces aspects-là, puis aussi de nombre d'études du fait de la rareté des événements, heureusement. Donc, du coup, c'est plus compliqué de travailler sur des maladies très rares que les multifactorielles que sur des maladies très fréquentes et multifactorielles. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, effectivement, là, on est beaucoup sur... la maladie est là et on travaille pas beaucoup sur l'éducation. Je pose la question des liens avec Promotion Santé Normandie, par exemple, sur l'accompagnement des parents globalement, sur des choses à améliorer dans les facteurs de risque, les expositions, la connaissance de ça. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour le côté prévention, qui est très peu développé et qui est important. Après, c'est pour revenir sur les séquelles à long terme, c'est toutes les difficultés des travaux sur les longs survivants. Vous disiez qu'il y avait à la fois la loi qui permet un droit à l'oubli, et puis il y a aussi les personnes directement concernées qui veulent avoir un oubli de la chose. Donc, on le voit pas que chez les enfants. Nous, dans l'unité, il y a des personnes qui travaillent sur la prévention tertiaire, sur les non-survivants de cancer de l'adulte. Et c'est pareil, il y a un taux de participation qui n'est pas très élevé et qui est en plus biaisé. C'est-à-dire ceux qui. On a plutôt l'impression que ça se passe bien à long terme, mais c'est une petite fraction de la population que l'on voit. Et donc, c'est là où c'est compliqué d'avoir une réponse juste sur les séquelles à long terme, parce qu'il n'y a qu'une partie de la population qui est affectée.
Mais de la même façon, ceux qui viennent nous dire qu'ils ont des bons souvenirs du service, c'est une réalité, hein. mais je me questionne sur ceux qui ne viennent pas.
Ouais,
c'est quand même ceux qui ne viennent pas, et les médecins constatent aussi au fur et à mesure que les patients disparaissent au moment du suivi à long terme.
Donc,
là, ces patients-là, on n'accède pas à eux.
Et à contrario, en effet, il y a des adolescents qui se mettent en danger dans la fréquence.
Il y a un jeune qui nous a sollicité il y a 2 ans, qui a été suivi dans le service, qui aujourd'hui a peut-être 25 ans. Et il a certainement pensé que le fait de rentrer dans l'association pouvait peut-être le guérir, au moins compenser certainement des choses qui sont encore sensibles dans son cœur et dans ses pensées. Donc, il est venu à une assemblée générale. À la fin de l'assemblée générale, il est venu nous trouver en nous demandant s'il pouvait faire partie de l'association. Donc, on lui a dit que oui, effectivement, on pouvait déjà être adhérent. Et là, il nous a parlé de l'arbre de Noël, qui s'est venu très, très bien de la fête de Noël. Et là, il s'est mis à pleurer. Donc, il s'est dit que c'était c'était encore quelque chose qui était hyper sensible chez lui. Et que du coup, je lui ai dit, parce que je suis obligée de venir à la fête de Noël. Ben, je dis non, il n'y a rien d'obligé, enfin, vous faites comme vous le sentez. Enfin, surtout, pour l'instant, vous sentez que c'est trop compliqué pour vous. Surtout, ne venez pas à la fête de Noël. Et après, il m'a posé une autre question, et il y a ça aussi. Alors. Et en fait, il n'était pas prêt du tout à intégrer l'association. Il pensait qu'effectivement, en venant dans l'association, il avait peut-être préparé certaines choses, mais finalement, pas du tout. Et on a pu
nouvelles. En fait, c'est vraiment
qu'il avait la pièce.
Et en fait, il nous disait que la case de Roussel lui avait apporté des choses, il avait envie de rendre. En fait.
Oui.
Et on voulait aussi apporter à nouveau quelque chose aux enfants. Aux enfants malades, c'était une première démarche. Donc, la Sainte Vierge, on a parlé de quelque chose.
Et là,
ça a dû remonter pas mal d'émotions.
Après qu'il allait peut-être préparer des choses en venant, pas du tout. Alors qu'il avait peut-être 25-30 ans, qu'il était malade, il avait 4 ans. Et là, ça a fait émerger des choses hyper, très, très sensibles. Oui, peut-être qu'il sera prêt. Hein.
S'il existe des dispositifs de soutien en deuil pour les parents. En bassin d'Andy, il y avait un dispositif qui est en lien à Madame Danzy, et qui donc proposait en fait vraiment des groupes familles, soit des sessions de parents, soit des sessions de parents. Ça s'est arrêté à son départ en retraite. Maintenant, il y a 5 ans, je pense que c'est terminé il y a 5 ans, et on est bien en peine de trouver en fait des ressources sur les sujets, notamment sur les groupes. Ça, ça n'existe plus. Moi, j'accompagne les familles. Je vois beaucoup de parents, je vois beaucoup de parents endeuillés, donc j'ai du suivi de deuil pour ces parents et pour les fratries. Mais il n'existe pas là aujourd'hui. Il n'y a pas de groupe identifié comme tel. C'est terminé, il n'y a rien. En fait, ça n'a pas été repris.
Donc, il y a des associations, mais pas pour les fratries, mais pour les parents. Et dans le cas de l'institution du CHU, il y a eu l'écriture d'un livret pour les parents. On reprend en fait toutes les étapes entre guillemets du deuil, qui explique aux parents un petit peu par quoi ils vont passer, les différentes émotions, mais aussi au sein du couple, au sein de la fratrie, des grands-parents. Et à la fin de ce livret, il y a également toutes les coordonnées des associations qui peuvent être une aide pour les parents endeuillés au niveau régional et au niveau national.
Et c'est pas du soutien thérapeutique.
Pour tous les intervenants. En lien avec le côté pluridisciplinaire du séminaire, comment voyez-vous l'articulation de vos différentes spécificités? Vos attentes, la réalité de cette articulation et vos difficultés, ce qui pourrait être amélioré. C'est un peu
large. Hein. Est-ce que loin.
Oui, c'est vrai que la collaboration entre psychologues, psychologues, je pense dans notre société. On n'intervient pas dans la temporalité,
je suis en contact très régulièrement avec une des mamans pour ces difficultés médicales, dans un aller-retour en fait entre nous deux, moi des choses que je constate dans les accompagnements cliniques, alors l'estime de soi c'est souvent quelque chose avec ensemble et avec vraiment nos deux regards différents sur la même problématique, et donc il y a des jeunes qu'on connaît l'une et l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, peut-être ça peut permettre de répondre à cette question-là, c'est qu'en fait, les jeunes sont très développés sur le lien. Ce qui montre bien à quel point il est obligé que une même problématique pouvait avoir deux regards et deux points de vue. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on est aussi très en lien entre structures. Et c'est pas compliqué de faire du lien, effectivement, entre psychologues, quelle que soit la spécialité, on les garde. C'est pas très compliqué dans les.
Je pense que c'est peut-être une différence avec d'autres pathologies, c'est que c'est très hospitalier, très centralisé, et donc il n'y a pas d'éclatement entre différents services et entre la ville et l'hôpital, et c'est pas là où le leader en France, il y a entre la ville et l'hôpital.
Je
ne
dirais pas ça, parce que quand même, moi j'interviens avec justement, la ville. Les intervenants, les HAD, les infirmières libérales, les consultants patrons, mais il y a quand même un lien important sur tous les soins et sur toutes les prises en charge, notamment quand l'enfant retourne
de l'hôpital. Je dis en général sur les pathologies, je ne parle pas des cancers de l'enfant, je parle en général, je vois les liens pour les cancers de l'adulte entre le monde hospitalier et le monde de la médecine de ville, c'est pas si net et si fluide que ça. Là, je ne parlais pas du tout des cancers pédiatriques. Mais je pense qu'il y a à la fois la prise en charge qui est plus centralisée, donc qui permet de ne pas changer pour la ville d'interlocuteur toutes les 5 minutes, suivant les endroits où c'est pris en charge de personnes, et puis le nombre de patients. Et le fait d'être dans un CHU et d'être prêt. Centralisé, je pense que ça aide à faire ces liens qu'on n'a pas pour toutes les pathologies. Donc, je pense que on n'aurait pas du tout le même type de sentiment si on prenait n'importe quoi dans la prostate. Là, il y aurait aura des choses à améliorer en termes de connaissances. C'est dans ce passé-là.
D'autres questions?
Non.
En tout cas, il n'y en a pas sur le chat. Je pense qu'on a déjà fait un peu le tour. On avait d'autres questions, mais en fait, ça a déjà été répondu finalement. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Est-ce que vous, de votre côté, vous aimeriez apporter quelque chose de supplémentaire, peut-être
poser des questions entre nous sur vos différentes.
Peut-être que vous avez songé d'aller faire un petit goûter.
Non, on va vous remercier.
Oui, on les remercie.